Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors que nous nous apprêtons à vivre et à fêter de façon toute virtuelle la solennité de Saint-Saturnin, notre Saint-Patron toulousain, je vous propose de réécouter aujourd'hui un reportage réalisé il y a déjà 2 ans à cette occasion. Écoutez, 17h30, dans l'église Notre-Dame du Thor, juste avant la célébration des vêpres grégoriennes.
Claudine. Non, un saint patron par rapport à une église, d'accord, mais là, Saint-Saturnin, c'est Toulouse. Donc avec tout ce que ça révèle de l'histoire de Toulouse, voilà, puisque c'est le début de la chrétienté. Donc c'est le premier évêque, donc voilà, au-delà de, après Saint-Cernin, c'est pas notre paroisse en plus, ici on vient parce que c'est la fête de Saint-Cernin, voilà.
C'est le diocèse, hein. c'est toute l'église diocésaine.
Oui, voilà, mais Saint-Cernin, moi je m'y suis mariée, donc voilà, c'est un peu... Et puis c'est par rapport à l'histoire de Toulouse, je trouve, voilà, c'est le premier évêque de Toulouse, à l'époque...
C'est le symbole.
Voilà, c'est le symbole. À l'époque des Romains, donc il a été tué et martyrisé, voilà, donc... Donc c'est ça, c'est l'histoire de Toulouse, j'aime l'histoire, c'est pour ça. Mm-hmm. Et toi, Chantal ?
Moi, c'est pareil, pour moi, c'est le symbole, ça représente Toulouse. Bon, et puis comme on est quand même des Toulousaines de longue date, Saint-Cernin, pareil, moi j'ai fait ma communion solennelle, donc ça représente beaucoup de choses.
Alain, écoutez, je suis de religion catholique, donc je suis attaché aux traditions de cette église. Saturnin, c'est le saint patron de Toulouse, et donc je viens un peu par tradition.
Eddy, alors je suis arrivé à Toulouse l'an dernier pour mes études, et c'est vrai que c'est la paroisse qui était la plus proche de chez moi, donc je commence à venir régulièrement, et c'est vrai que la solennité de Saint-Cernin, ça, c'est un temps fort donc, de la paroisse, et la première fois que j'y ai participé, j'ai trouvé cette solennité incroyable, et donc cette année, je ne me suis pas privé de revenir.
C'est un saint que vous connaissiez auparavant ?
Oui, au travers de l'histoire de Toulouse, mais sinon, pas particulièrement.
Théo. Moi, j'étais venu aussi l'an dernier, j'avais loupé les vêpres pour le coup. J'avais fait que la procession et la messe à Saint-Cernin. Ça m'avait beaucoup plu et j'avais jamais fait procession avant, donc du coup, je me suis dit que j'allais revenir. Et vu que c'est vraiment à côté, c'est quand même bête de ne pas venir.
Mais qui est réellement Saturnin ? D'où venait-il ? Comment, pourquoi et comment apparaît-il dans l'histoire de Toulouse, ou plutôt de Tolosa ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, je retrouvais quelques heures plus tôt, place Esquirol à Toulouse, où il m'avait donné rendez-vous, Philippe Faureau, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Philippe Faureau, une voix familière de cette antenne, puisque depuis la rentrée, il produit chaque semaine l'émission « Les fenêtres de l'histoire ». Et avec lui, nous mettions alors nos pas dans ceux de Saturnin. Mais pourquoi nous avoir donné rendez-vous en ce lieu ?
Oh, tout simplement parce que c'est sur ce lieu, sur ce forum de la ville antique, qu'a eu lieu la mise à mort de Saturninus, de Saturnin, en 250 de notre ère, bien sûr. Et effectivement, cette place Esquirol était la place centrale de la ville. Et il y avait en particulier le temple qu'on appelait du Capitole, où il y avait la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Et si on lit la Passion de Saint-Saturnin, qui nous raconte le martyr, c'est en traversant l'actuelle place Esquirol, donc le forum, qu'il a été interpellé par la foule et qu'il a subi finalement le martyr, lié sans doute plutôt à un lynchage public, à une décision de justice. Le texte nous dit qu'il venait de la zone qui correspond à peu près à l'entrée du pont Neuf actuel, où à l'époque antique, il y avait un théâtre de 5 à 6 000 personnes, et il allait avec un prêtre et 2 diacres vers, nous dit le texte, le lieu où se retrouvent les chrétiens pour prier. Alors ce lieu est sans doute, très probablement, le lieu où se trouve la cathédrale Saint-Étienne aujourd'hui. Parce qu'en fait, il allait remonter ce qu'on appelle en latin le Decumanus, c'est-à-dire traverser la place Esquirol, le forum, et remonter l'actuelle rue de Metz, qui correspond au Décumanis, une des grandes allées de la ville. Et il est fort probable que dans la zone de l'actuelle cathédrale, il y avait un titulus, c'est-à-dire une maison où les chrétiens, mais cette petite communauté toulousaine, qui est très difficile à évaluer, c'est quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, c'est très difficile, se réunissaient pour prier. Et là, il a été pris à partie au moment où on avait sacrifié un taureau devant le temple.
Alors, à quoi ressemblait Tolosa? Quel était le visage de cette cité? Donc, c'est début 3e siècle, vers 250 à peu près, oui, quand Saturnin arrive à Toulouse.
Oui, la mort de Saturnin, c'est 250. Donc, il est peut-être là depuis quelques mois, peut-être un ou deux ans, ça c'est impossible à dire. Alors, à quoi ressemble Toulouse au milieu du 3e siècle? D'abord, c'est une colonie romaine, c'est une ville romaine depuis Dioclétien, Domitien. Elle a un statut de colonie romaine, mais elle a été sans doute fondée dans un premier temps par Auguste. Et elle est entourée d'un rempart. Ça, c'est une originalité, parce qu'à l'époque de Claude, vers 40-50 après Jésus-Christ, elle est entourée d'un rempart dont on voit quelques traces du côté du palais Niel, du côté de l'état-major. Et ces remparts englobent une superficie de 90 hectares. Alors, la population chiffre, alors là, très sujet à caution. On peut imaginer qu'au 3e siècle, enfin au milieu du 3e siècle, c'est entre 15 et 20 000 habitants. Si on prend la marée haute, c'est-à-dire 20 000, ça situe Toulouse parmi les grandes villes moyennes de la Gaule romaine. C'est-à-dire que devant elle, il y a Lyon, Vienne, Narbonne, Nîmes, Marseille et ensuite sans doute Toulouse.
Vous m'avez dit, ici, nous sommes sur le forum.
Oui, nous sommes sur le forum. Comme toute cité romaine, il y a une place centrale qui est le forum. C'est vraiment un lieu de sociabilité où vous avez la curie, c'est-à-dire là où se réunissent finalement les notables de la cité. Il y a donc le temple, sans doute donc un temple à Jupiter. Et donc c'est un lieu effectivement où on pratique le culte impérial. Le culte à l'empereur, qui est un élément justement de fidélité, où on prouve sa fidélité à l'Empire et au souverain par la participation à ce culte. D'où d'ailleurs la difficulté pour les chrétiens. Parce que Saturnin va mourir au moment où il y a eu un édit impérial qui a été ordonné par l'empereur Dèce, qui demandait à tous les habitants de l'Empire de montrer leur fidélité en sacrifiant aux dieux traditionnels de Rome et en faisant le culte impérial. Or, ce type de pratique ne correspond pas évidemment à la foi chrétienne, parce que sacrifier à Jupiter, ça ne signifie rien pour un chrétien, et le culte impérial pose problème aussi, parce que si les chrétiens sont pour l'immense majorité de bons sujets loyaux de l'empereur, ils ne le considèrent pas comme une divinité à adorer. Et donc, évidemment, le culte impérial, où il faut brûler un peu d'encens, par exemple, au pied de la statue de l'empereur, leur pose des problèmes. Et c'est visiblement dans ce contexte précis que Saturnin va subir le martyre. Puisque quand il est interpellé par la foule, à quelques mètres de nous, là, près du temple, il va refuser, finalement, de sacrifier. Et comme on l'accuse d'avoir fait taire les dieux anciens, les dieux traditionnels, alors, faire taire les dieux traditionnels, c'est sans doute que comme on sacrifiait les animaux et qu'on lisait les entrailles, ces entrailles ne disaient plus grand-chose. Enfin, en tout cas, elles n'étaient plus très lisibles par les prêtres traditionnels. Et c'est ce que veut dire peut-être le texte en disant qu'il les avait fait taire, finalement. On avait du mal à lire dans les entrailles. Et donc, c'est parce qu'il refuse ce sacrifice qu'il va être pris à partie et jusqu'à la mise à mort.
C'était les tout débuts de cette ère chrétienne.
À Toulouse, on présente Saturnin comme le premier évêque, le premier chef de la communauté. Donc cela veut dire que le christianisme à Toulouse est extrêmement récent. En Gaule, on a des traces du christianisme au second siècle. Par exemple, à Lyon et à Vienne, il y a des martyrs en 177. Donc il y a une présence chrétienne à ce moment-là. Et d'ailleurs, on se demande aussi d'où vient ce Saturnin. Parce que finalement, on connaît bien sa mort, mais on connaît très peu ce qui précède la mort. On est bien incapable de vous dire à quel âge il est mort. D'où il vient? Alors, Grégoire de Tours nous dit qu'il est envoyé par le pape Fabien, qui est donc le pape du milieu du 3e siècle, pour évangéliser. Mais est-ce qu'il vient de Rome directement ou est-ce qu'il a d'autres origines? Or, son prénom Saturninus, le fils de Saturne, Il se trouve que ce prénom est assez répandu dans la province d'Afrique, c'est-à-dire notre Tunisie actuelle. Est-ce à dire que Saturnin est venu à Toulouse d'Afrique, en passant par Rome? En tout cas, il n'est pas forcément originaire de la région du tout. Il est probable que, comme l'Afrique était une province plus christianisée que la Gaule, il y ait eu des missionnaires ou des propagateurs de la foi qui soient venus de la province d'Afrique.
Vous nous parlez de Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, c'est bien plus tard.
Oui.
Donc c'est un chroniqueur.
Tout à fait.
Qui s'appuyait, lui, sur quel document, sur quelle source, et vous-même aujourd'hui?
Alors en fait, Grégoire de Tours, oui, c'est un auteur du VIe siècle qui nous raconte la christianisation de la Gaule. Donc lui-même pouvait s'appuyer sur des chroniques, peut-être aussi sur des textes hagiographiques chrétiens. Quant à nous, sur Saturnin, nous disposons de sa Passion, qui vient d'être réétudiée et réexaminée par un de mes maîtres en histoire antique, qui est Jean-Marie Payet, et qui a écrit un livre justement sur Saturnin. Et en fait, ce texte est daté d'environ 430-440 et nous donne des renseignements sur la fin de la vie. Donc en fait, nous sommes assez limités. Mais par contre, nous avons de l'archéologie qui peut nous renseigner sur la ville de Toulouse au IIIe siècle. On sait par exemple que l'amphithéâtre de Purpan, au IIIe siècle, est agrandi. Que c'est un amphithéâtre qui fait aux alentours de 12-15 000 personnes. On a une image relativement claire de certains aspects de la ville. Le théâtre près du pont Neuf, la porte nord de la ville qui se trouvait au milieu de la place du Capitole, qui malheureusement a été détruite en une nuit en 1970. Donc l'archéologie nous permet de mieux connaître, mais avec des incertitudes bien sûr, la ville elle-même.
Il y a une trace ici, visuelle ou matérielle, du temple?
Alors, en fait, on a retrouvé des restes du temple lorsque l'on a creusé, ça devait être dans les années 1980, le parking de la place Esquirol. Et on a retrouvé des traces d'un temple qui était sans doute le temple capitolin. Alors d'ailleurs, j'en profite pour signaler que dans le texte de la Passion de Saint-Sernin, on nous explique que le taureau a été placé en haut de l'escalier, et que donc d'ailleurs le saint va être lui-même attaché donc à ce taureau et traîné, et que les marches des escaliers, il va les dévaler. Or ça, c'est sans doute faux. C'est-à-dire que le taureau était plutôt en bas des escaliers. Parce que vous avez essayé de faire monter un taureau en haut d'un escalier, l'autel où les sacrifices se trouvent en bas du temple et non pas en haut de l'escalier. Donc là, il est probable que de toute manière, l'auteur qui a écrit la Passion de Saint-Saturnin, dont nous ignorons l'identité exacte, ne connaissait plus très bien l'organisation du temple païen. Et d'ailleurs, le temple lui-même a été sans doute détruit au 4e, début 5e siècle, le temple dit du Capitolin. Et donc, le taureau, oui, parce que c'est un sacrifice prestigieux, mais on ne l'a jamais fait monter en haut de l'escalier, parce que ça ne se faisait pas, tout simplement. On sacrifiait en bas des escaliers. Et les fidèles, à la différence des chrétiens qui rentraient dans l'église, ou plus tard, les fidèles ne rentrent pas dans le temple. Le sacrifice se fait donc à l'extérieur, à la vue de tous. Et donc, Saturnin passe au mauvais moment, je dirais, sur le forum, puisque c'est le moment d'un sacrifice. Et que là, il est pris à partie par la foule. Et le texte nous dit, le prêtre et les deux diacres s'enfuient. Bon, laissant leur évêque à son sort.
Nous venons de prendre donc la rue des Champs, et vous nous dites le cardo. Le cardo, c'est quoi?
Oui, alors le cardo, c'est... tout à l'heure, j'ai parlé du Decumanus. Le Decumanus, donc, est une des grandes voies romaines qui passe de l'ouest à l'est, ou inversement. Et là, nous sommes sur le cardo, c'est-à-dire la voie romaine, la rue romaine, qui allait du sud au nord. Donc, ça partait à peu près, si vous voulez, de l'emplacement, grosso modo, de la place du Parlement, près du palais de justice. Elle remontait vers la rue des Filatiers, la rue des Changes, la rue Saint-Rome, et elle arrivait jusqu'à la porte nord de la ville, qui se trouvait au milieu de l'actuelle place du Capitole. Et ensuite, vous aviez une zone de cimetière, que c'est là où on va mettre le corps de Saturnin. Une zone de cimetière qui se trouvait donc au nord, dans toute la zone de la basilique Saint-Sernin, car la loi romaine interdit de mettre les corps des défunts dans la ville. Et donc, vous passiez la porte nord, et puis, vous arriviez dans la zone des cimetières où se trouve l'actuelle basilique Saint-Sernin. Il est fort probable d'ailleurs que le corps de Saturnin, qui est, nous dit le texte, récupéré par les saintes puelles, par des femmes dont on ne connaîtra jamais l'identité, n'a pas été déposé à la basilique Notre-Dame du Thor, enfin, à l'église Notre-Dame du Thor. Or là, on a fait des sondages archéologiques, on n'a rien trouvé comme trace funéraire à l'emplacement de l'église. Et il est probable, tout simplement, et d'ailleurs c'est presque logique, qu'on ait déposé dans la zone des cimetières, un peu plus loin, la dépouille de Saturnin, et que la mémoire chrétienne ait gardé, évidemment, le lieu de la sépulture du saint martyr. Et qu'ensuite, on a fait une petite église au IVe, et puis à partir du Ve siècle, une église plus grande, qui elle-même a été détruite au profit de la basilique que nous connaissons à partir des années 1070, le chantier.
Notre-Dame du Thor, donc en relation, bien sûr, avec Saturnin.
Oui, avec la mémoire du taureau, disons. Mais oui, alors le texte de la Passion nous explique que la tête aurait, je dirais, été fracassée par les heurts, les secousses liées au fait qu'il était attaché au taureau, et même qu'un morceau de cervelle est sorti du crâne. Enfin, voyez, on ne nous épargne aucun détail. Et alors oui, Notre-Dame du Thor garde le souvenir du taureau, du martyr par le taureau. Vous savez, entre la mort en 250, et le fait que la religion chrétienne soit religion autorisée, religio licita, c'est un gros demi-siècle, c'est pas très très long non plus dans la mémoire des hommes,
oui,
puisque 313, c'est 313, donc 250, 313, c'est disons trois générations. Donc le lieu de la sépulture est gardé par la communauté chrétienne, parce que c'est un lieu qui va être vénérable au sens strict du terme. Et donc au IVe siècle, donc le siècle de Constantin et des empereurs chrétiens, il va y avoir la construction d'une petite église, mais bon, qui elle va être remplacée au Ve par une église un peu plus importante, dont on a des traces d'ailleurs au niveau du cœur de l'actuelle basilique Saint-Cernin. Et cette église du Ve siècle va durer jusqu'à la fin du XIe, c'est-à-dire quand dans les années 1070, les chanoines de l'abbatiale décident d'ériger la superbe église que nous avons aujourd'hui.
Et pourquoi l'évêque Saturnin est-il devenu ainsi le saint patron de la ville de Toulouse ?
D'abord, si j'ose dire, sa mort fait qu'il est un témoin majeur, parce qu'évidemment il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont accepté de prendre le risque de la mort pour témoigner de leur foi. Donc évidemment, c'est ce culte des martyrs qui va se développer assez vite dans l'Antiquité chrétienne, fait de Saturnin une figure remarquable au plein sens du terme. Puis ensuite, vous avez parmi les autres grandes figures des débuts du christianisme à Toulouse, des personnes comme Saint-Hilaire, Saint-Exupère, qui vont magnifier la figure de Saturnin. Puis, il faut bien dire ensuite que toute une série de textes hagiographiques du haut Moyen-Âge vont faire de Saturnin un saint guérisseur, un saint qui finalement a des vertus toutes particulières, et donc va se développer un phénomène de pèlerinage sur la tombe du saint évêque. Mais on retrouverait ça ailleurs dans la Gaule franque, Martial à Limoges par exemple, ou Trophime à Arles, où vous avez effectivement un phénomène un peu comparable, puisque c'est cette génération, disons, d'évangélisateurs que l'on va honorer et vénérer dans la Gaule franque. Et puis ensuite, il y a un phénomène, évidemment, mais alors là, qui dépasse le cadre de notre émission, c'est le phénomène Saint-Jacques de Compostelle, parce que le pèlerinage va faire que Toulouse va être une des étapes.
Saturnin à Saint-Cernin, l'évolution du mot,
oui, alors du nom. Là, je dois avouer que je ne suis pas très bon linguiste. Je pense qu'il y a une occitanisation, finalement, en Cernin, du mot latin Saturninus. Mais le mot originel, c'est Saturninus, ou Saturnin francisé. Et là, on arrive à peu près, vous voyez, on est à peu près au milieu de la place du Capitole, c'est-à-dire au lieu de la porte nord de la ville, qui a donc été détruite en 1970, au moment du creusement du parking du Capitole. Mais mon maître Jean-Marie Payet, il ne s'en est jamais remis de la destruction de la porte. Et il en parle toujours avec beaucoup d'émotion.
Alors là, voilà, nous quittons la place du Capitole, et nous remontons donc la rue du Top.
Et voilà, là, on vient de quitter la ville romaine. On est presque à la campagne, si j'ose dire. C'est hors de la ville, et il va y avoir donc la zone des cimetières. D'ailleurs, cette zone sert de lieu de sépulture jusqu'au XVIIIe siècle, donc pendant très très longtemps. Dès qu'on fouille un peu, d'ailleurs, on arrive vite au niveau de tombes et on trouve assez rapidement des squelettes de défunts dans toute cette zone. Et donc, à l'époque romaine, nous sommes, si j'ose dire, un peu en campagne, c'est la porte nord qui mène vers Cahors. C'est la route qui mène à Cahors, alors que la porte sud du côté de Narbonne, c'est Narbonne, et puis si j'ose dire Rome, bon, plus loin. Et donc au Moyen-Âge, va se créer un faubourg, le faubourg Saint-Cernin, autour évidemment du sanctuaire, et là va se développer, je dirais, tout un lieu d'accueil pour les pèlerins.
Alors je crois que l'église est ouverte, on peut peut-être entrer. Donc ici, donc Notre-Dame du Thor, est-ce qu'il y a une représentation ?
En fait, effectivement, quand on rentre dans Notre-Dame du Thor, il y a une grande représentation du martyr. On voit le taureau et le corps de Saturnin, déjà, je dirais, un peu en dehors de la ville, et puis les saintes puelles qui vont récupérer le corps. D'ailleurs, les saintes puelles, effectivement, c'est un peu comme les femmes qui vont au tombeau pour le dimanche de Pâques. C'est-à-dire que le rôle de la femme pour au moment de la résurrection ou au moment de la sépulture de Saturnin est quand même fondamental. Alors donc, il y a une représentation extrêmement importante donc du martyr. Mais évidemment, Notre-Dame du Thor, c'est aussi un lieu important pour le culte marial, en particulier donc la Vierge du Rempart, que l'on dit du Rempart, qui se trouve dans le cœur de l'Église. Mais comme on le disait tout à l'heure, de là à dire qu'il y a eu ici la sépulture de Saturnin, ça c'est sans doute beaucoup plus discutable, puisque ce qu'on appelle les sondages archéologiques sous l'Église ont fait qu'il n'en a pas trouvé du tout de trace d'une quelconque sépulture. Donc, bon, Saturnin est allé directement là où il devait reposer jusqu'à aujourd'hui.
Et de l'église du Thor, tout comme quitté par Mgr Le Gall, évêque de Toulouse, le feront le lendemain les fidèles d'aujourd'hui, nous nous dirigeons à présent vers la basilique Saint-Cernin, vers le tombeau de l'évêque martyr.
On est dans le transept sud, on vient de franchir le seuil de la porte des Comtes, et donc nous sommes dans le transept sud de la basilique, qui est réservé d'ailleurs à la prière. C'est pour ça qu'en général, ce n'est pas visité trop par les touristes de passage. Et donc, on entend d'ailleurs le bruit d'un aspirateur. On peaufine et la basilique pour les cérémonies de demain. Et donc, voilà, la vieille dame sera très présentable demain donc pour les cérémonies de la Saint-Cernin. Et puis, à quelques pas de nous, les piédis de Saint-Christophe, que les pèlerins touchaient en arrivant dans la basilique. Et oui, demain, on retrouvera peut-être aussi l'esprit séculaire de Saint-Cernin au travers de la procession et du tour des corsins que les fidèles, le clergé, notre archevêque feront. Ils feront tous ensemble ce tour des corsins. Et finalement, je pense que là, on retrouve véritablement ce que fut le Saint-Cernin, enfin, la basilique Saint-Cernin historique, véritablement. Parce que cette grande nef avec ses deux bas-côtés sont faits pour les processions. Nous voici devant les stalles des chanoines. Ce sont des stalles des années 1670, parce qu'il y avait eu un incendie en 1668 qui avait abîmé le cœur des chanoines. Et donc, ce sont des stalles des années 1670, donc nous sommes sous Louis XIV. Et puis, en face de nous, un peu plus loin, l'autel où on célébrera demain l'Eucharistie, où tous les dimanches on célèbre l'Eucharistie. Et ce qui est émouvant, là, c'est finalement que l'autel de Saint-Cernin remonte à la fin du XIe siècle. C'est là que le 24 mai 1096, Urbain II a célébré la messe. Et donc, là aussi, c'est la longue durée historique. Et derrière, nous avons le devant d'autel, nous avons l'autel baroque marbre, et le devant d'autel de Marc Arcis, où l'on voit le martyr de Saturnin. Et puis, le baldaquin, si j'ose dire à la romaine, comme à Sainte-Marie-Majeure ou à Saint-Pierre de Rome, et qui donc date des années 1720-1740, et le sarcophage baroquisé avec le sein au-dessus qui a ce geste finalement de, avec ce bras levé vers le ciel et qui a été posé là, je crois, en 1759. Donc vous voyez, encore au XVIIIe siècle, on travaille finalement à Saint-Cernin. Et puis au-dessus du tombeau, ce Christ en majesté qui a été peint dans les années 1536-1542, entouré de part et d'autre du symbole des évangélistes.
Et à travers les écrits de La Passio ou de divers hagiographes, la légende dorée s'est emparée de Saturnin, premier évêque de Toulouse. Mais, nous dit l'historien Jean-François Bayer, ni les uns ni les autres n'ont pu faire oublier ce qu'a été le simple, le vrai Saturnin. Exemple, suggère-t-il, à d'autres voix chrétiennes du refus, Monseigneur Saliège, Monseigneur de Solage. Et puis aujourd'hui, en ce mois de novembre 2020, n'oubliez pas que, compte tenu des circonstances sanitaires, les vêpres et la messe solennelle, présidée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse, qui sera célébrée ce lundi 30 novembre, ne seront pas ouvertes au public, mais seront diffusées sur la page Facebook de la Basilique Saint-Cernin ou sur l'événement Facebook.